Écho d'ici, écho d'ailleurs. Jean-Pierre Boris, Guillaume Lumier.
Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition d'Écho d'ici, Écho d'ailleurs, l'émission qui démonte les rouages de l'économie mondiale. Aujourd'hui, en cette fin d'année 2017, nous nous penchons sur une ressource naturelle qui pourrait être un énorme cadeau pour les économies africaines et qui, au vu des conséquences, a été souvent qualifiée de malédiction. Nous allons parler du pétrole africain, de la manière dont les pays africains vendent leur or noir, à qui ils le vendent et comment ils tirent avantage de cette production. Avec nous pour en parler, Luc Désiré Angba, bonjour.
Bonjour.
Luc Désiré Angba, vous êtes maître de conférence à Paris 10 Nanterre, maître de conférence avec habilitation à diriger des recherches. Vous avez reçu en 2009 le prix du Global Development Network, qui est un think tank américain. Au cours de cette émission, de nombreux reportages, tout frais ou sortis des archives de RFI par notre Sonotech, nous Nous avons donc rendez-vous avec Yves-Laurent Goma à Libreville, Charlotte Cosset à Kampala, Leila Berato à Alger, Madjasra Nako à N'Djamena, Moïse Gomis à Lagos et Olivier et Roger à Paris. Un sommaire très riche, une émission très nourrie de reportages de nos divers correspondants en Afrique. Luc Désiré Angba, quelques questions avec des réponses très brèves. Après, on va entrer dans le vif du sujet. Qu'est-ce que l'Afrique pèse sur l'échiquier pétrolier mondial? Est-ce qu'elle pèse lourd?
Pour le coup, en fait, il y a souvent une difficulté par rapport à l'Afrique. C'est que on pense que beaucoup de ces pays sont abondants en ressources, mais en fait, ils ne sont que dépendants de ressources. C'est-à-dire tout simplement que les ressources représentent une grande partie de leurs exportations, mais plutôt en termes de richesse, c'est beaucoup moins que ce qu'il paraît. Un exemple, si vous prenez le cas par exemple du Cameroun, c'est 200 millions en termes de réserves, 200 millions de barils en termes de réserves. Mais vous voyez un pays comme par exemple l'Arabie Saoudite, c'est 266 milliards à peu près en termes de réserves. Donc le problème qui se pose plutôt dans ces pays, c'est qu'il y a une incompréhension des choses en pensant que le fait d'être dépendant fait de le fait d'être abondant. Et d'où en fait, de manière structurée, ces pays-là engagent plutôt des politiques en termes de redistribution de ressources au lieu d'avoir des politiques en termes de création de richesses.
Quel est le niveau des prix du pétrole en ce moment?
Ça varie entre 55 et 60 dollars selon les marchés.
Donc c'est beaucoup plus bas que ce qu'il y avait il y a 3-4 ans où on était aux alentours de 100 dollars le baril. Est-ce que l'Afrique a souffert de la remontée des cours, de la baisse des cours? Oui, bien sûr, on le sait. Mais est-ce qu'elle profite de la légère remontée qu'on enregistre depuis quelques mois?
Là, vous posez une très bonne question, parce qu'en fait, c'est ça le nœud du problème. C'est que le pétrole structure ces économies-là. C'est-à-dire, en gros, ces économies vont un peu mieux lorsque les cours, en gros, sont un peu plus hauts. Et ces économies vont un peu moins bien lorsque les cours sont très bas. Et donc, là pose véritablement la question de la structure même de ces économies. Et pour le cas d'espèce, cela ne tient pas juste du pétrole. Cela relève également du fait que la plupart des pays, notamment les pays africains, sont fortement dépendants en matière première et donc structurent leurs économies sur cette base-là. Et dans ce cadre-là, ça structure les comportements, notamment, peut-être on y reviendra, en termes, par exemple, de distorsion en termes de ressources. Ça structure également le fait qu'il y ait de plus en plus des jeunes qui rentrent sur le marché du travail en Afrique, mais comme toute l'économie est gérée à partir de la rente publique, et comme cette rente, en fait, elle est limitée pour l'ensemble des populations, ce modèle, donc, dans lequel ces pays se basent, est totalement voué à l'échec. Il n'est pas totalement soutenable. Et donc, en gros, à court terme, ils arrivent souvent par le fait qu'il y ait une remontée de cours à plus ou moins accroître en termes, par exemple, d'emploi public, de recrutement pour essayer d'abaisser les tensions sociales. Mais le problème, c'est qu'à terme, avec tout ce que nous savons en termes de population en Afrique qui s'accroît, et qu'on se retrouve avec plus près de 29 millions de jeunes quasiment chaque année qui rentrent dans le marché, sur le marché de l'emploi en Afrique, il est très prédictif de savoir que ce modèle-là n'est pas soutenable.
Non, en fait, est-ce que le fait que ce modèle, bon ou mauvais, je ne porte pas de jugement, dépende autant du pétrole, fait que les dirigeants de ces pays accordent beaucoup d'importance à la manière dont ils négocient les contrats d'exploration et d'exploitation de leur pétrole? Est-ce que c'est une question centrale dans la politique et dans l'économie de ces pays?
Le problème de cette question, c'est que lorsqu'on négocie un contrat, il faut des ressources humaines. Et la contrainte de ces pays, c'est que justement, il n'y a pas assez de capital humain pour avoir totalement une vision d'ensemble dans la négociation des contrats. En moyenne, ces pays négocient des contrats avec des majors, avec des multinationales qui ont une batterie d'avocats, qui ont une batterie de services juridiques. Et ces pays ne sont pas souvent outillés réellement pour négocier ces contrats-là. Après, ajouter au fait que certains de ces contrats datent parfois de la période coloniale, ça rend encore moins possible les marges de manœuvre pour ces dirigeants. Et donc, du coup, aussi, le calcul qui est très vite fait, c'est beaucoup plus de dire, voilà, avec la rente publique dont le gouvernement ou l'État en fait peut acquérir, comment est-ce que je vais gérer les tensions sociales? Et ça, c'est un mauvais calcul parce que tout simplement, en faisant cela, déjà, l'industrie du pétrole est intensément capitalistique. Donc, on emploie très peu en termes de manœuvre. Et donc, forcément, l'objet serait plutôt d'utiliser ces ressources pour lever les obstacles à leur développement plutôt que d'entretenir ces ressources pour la redistribution.
On va prendre tout de suite un exemple concret, le cas du Gabon. Yves-Laurent Goma, le correspondant de RFI à Libreville, a rencontré Charles Chen, un consultant spécialiste du sujet qui a longtemps travaillé pour Shell, la compagnie anglo-hollandaise. Charles Chen entre dans le détail des contrats entre les compagnies pétrolières et l'État gabonais. On l'écoute au micro d'Yves-Laurent Goma à Libreville.
Petit corps d'Asiatique, Charles Chen, né d'une mère gabonaise et d'un père chinois, est probablement le Gabonais le plus futé en matière de pétrole. À 76 ans, il cumule 43 ans d'expérience dans l'industrie pétrolière. Charles Chen a certes pris sa retraite en 2000, donc il y a 17 ans, mais il a tout de suite créé l'IPC, l'Independent Petroleum Consultants, sa société de consulting qui lui permet de mieux connaître l'évolution des contrats pétroliers au Gabon. Le premier modèle s'appelait convention.
L'ancien modèle de convention était valable pour des champs comme Gamba, Rabi, où l'État prenait en fait son 13% d'impôt sur les sociétés après déduction de toutes les taxes, ce qui est un régime plus ou moins normal à l'époque.
L'État était gagnant ou assez perdant quand même?
Non, l'État était gagnant. Sur un baril de pétrole produit, l'État gagnait son 13%.
C'est pas trop?
C'était dans l'industrie, c'était la norme en fait. La plupart des pays imposaient le même genre de contrat.
Ensuite, le Gabon est passé au contrat de partage de production CPP.
C'était une tendance un peu mondiale, si je peux la qualifier comme telle. Sur un baril de pétrole produit, il y avait un partage entre l'État et la société après récupération de tous les coûts induits par l'exploration. Le système était initialement très très bien puisque il permettait aux sociétés de récupérer tous leurs coûts d'exploration et de gagner après. Donc on arrivait à un système qui était à peu près de l'État gagnait quelque chose infini sur un baril de pétrole, gagnait entre 65 et 70%. Et la rentabilité interne de la société était un peu plus de 15%, envers les 20%. Donc c'était un système aussi que nous avons jugé correct.
Tout a encore changé lorsque le Gabon a adopté une nouvelle loi pétrolière le 28 août 2014.
Mais ces nouveaux contrats, c'est toujours des contrats d'exploration et de partage de production. Malheureusement, dans le cours pétrolier du 28 août 2014, il est stipulé que l'État imposer 35% d'impôts sur les sociétés, sur la part de la société. Et ça, ça a changé complètement l'économie. On arrive à une situation où la rentabilité interne des sociétés est réduite à peu près 8%, et sur un baril de pétrole produit, l'État gagne à peu près 81%. Ce qui est énorme et ce qui met en danger la rentabilité des sociétés. C'est pourquoi, en fait, depuis 2014, depuis cette date, seuls deux contrats ont été signés au Gabon. Aucun autre contrat n'a été signé. Parce que la rentabilité n'est pas dans le contrat. Ce qui explique aujourd'hui qu'il n'y a pas beaucoup de sociétés qui sont rentrées au Gabon pour faire l'exploration. Or, pour renouveler les réserves, il faut de l'exploration. Et tant qu'on n'a pas l'exploration, on n'arrive pas à renouveler les réserves. Et c'est assez alarmant, en fait.
Charles Chen, au micro de notre correspondant à Libreville, Yves-Laurent Goma. Le Gabon était trop gourmand, Luc Desseyongba.
Je ne sais pas si le Gabon était trop gourmand, mais déjà, d'emblée, il faut savoir que la plupart des investissements directs étrangers qui partent dans ces pays-là, notamment les pays africains, vont dans les secteurs miniers et dans le secteur pétrolier. Tout simplement parce que, très clairement, il y a une forte rentabilité dessus. Maintenant, ce qui est vrai, c'est que les investissements également sont massifs. Et d'ailleurs même, cela implique une certaine entente tacite entre les gouvernants de ces pays-là et en moyenne ces compagnies-là. Après, maintenant...
Quand vous dites entente, vous voulez dire collusion ?
Quand je dis entente, cela vient du fait que si un investisseur a mis beaucoup d'argent pour investir dans un champ pétrolier en Afrique, je pense pas qu'il serait très tenté de revoir, négocier ce contrat-là. Et donc, dans ce cadre-là, il y aurait sans doute beaucoup moins en termes de contraintes sur les exécutifs de ces pays. Et donc, c'est pourquoi peut-être vous pouvez voir d'emblée qu'un certain nombre de gouvernances changent dans d'autres pays, mais pas dans ces pays-là, parce que tout simplement aussi, il y a ces questions en termes du fait qu'il y ait un investissement. Maintenant, là, il y a un autre point, c'est que d'après ce qui est dit, lorsque vous regardez pourquoi les entreprises partent en Afrique, le premier point n'est pas la taxation. Le premier point, c'est l'accès au crédit. Le deuxième point est plutôt d'ordre de sécurité, la stabilité politique. Il y a un autre point en termes d'accès, par exemple, à l'électricité. Les questions au niveau des taxes, que ce soit au niveau des taxes, que ce soit au niveau même de la gouvernance en termes de corruption, arrive plutôt parmi les points les moins importants lorsqu'on regarde les enquêtes sur les entreprises par rapport aux investissements directs étrangers. Après, maintenant, il y a un autre problème, c'est que dans la plupart de ces pays, il faut bien que dans ces pays qu'on comprenne que les investisseurs viennent parce qu'il y a des entrepreneurs locaux. Ça a été par exemple le cas de la Chine.
Alors, on va passer à un autre exemple, Tchad, qui est aujourd'hui dans une situation difficile, qui risque d'entraîner l'économie de ce pays au fond du gouffre. Depuis plusieurs mois, N'Djamena et son principal créancier, le trader international suisse Glencore, sont en conflit au sujet d'une dette de plus de 1 milliard de dollars que le Tchad n'arrive pas à rembourser. Olivier Roger, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes journaliste au service d'économie de RFI et vous connaissez bien ces questions. Les tentatives de négocier un rééchelonnement de cette dette entre le Tchad et Glencore n'ont pas abouti pour l'instant.
Non, elles n'ont pas abouti et pourtant cette histoire a commencé presque comme un conte de fées. N'Djamena souhaite racheter au pétrolier américain Chevron sa part dans le gisement pétrolier du bassin de Doba, le plus riche du pays. On est en juin 2014. C'est une opération donc coûteuse et le Tchad n'a pas d'argent. Il fait donc appel au négociant suisse Glencore qui réunit la somme via un consortium de banques principalement françaises et allemandes. N'Djamena est censé rembourser en 4 années en livrant des cargaisons de pétrole. À cette époque, les cours du pétrole sont très élevés et pour chaque baril tchadien vendu, Glencore touche environ 100 dollars, ce qui laisse augurer d'un remboursement assez rapide.
Et c'est ce qui s'est passé, Olivier Roger ?
Malheureusement non, parce que rien ne se passe comme prévu. Justement, le pétrole chute, les cours tombent et dès l'automne 2014, on est environ à 40 dollars le baril de brut et le Tchad est obligé donc de livrer le double des cargaisons initiales pour rembourser sa dette. La société pétrolière tchadienne y laisse ses plumes. Les caisses de l'État se vide, le pays est sous pression, et alors que l'austérité touche tous les secteurs de l'économie, hein, puisque cet appauvrissement va se répercuter notamment sur le coton, eh bien, le niveau de vie des Tchadiens s'érode. Le gouvernement doit faire appel à un cabinet d'avocats pour trouver des solutions et obtenir de Glencore un arrangement.
Un rééchelonnement de la dette. Les défenseurs du Tchad n'hésitent d'ailleurs pas à parler d'emprunt toxique et d'un accord qui empoisonne les finances tchadiennes.
Et ça donne le ton un petit peu, effectivement, du dialogue ou des négociations qui se déroulent d'ailleurs secrètement, hein, entre le Tchad et Glencore, des négociations qui piétinent. On l'a vu encore cette semaine avec ces négociateurs suisses et tchadiens qui se sont séparés sur un nouveau constat d'échec. N'Djamena voudrait rallonger les échéances de remboursement sur 12 ans notamment. Les deux parties ne sont pas d'accord. Elles ne sont pas non plus d'accord sur les taux d'intérêt liés à cet emprunt d'1,3 milliard de dollars. Tous les ponts ne sont cependant pas coupés et les négociations pourraient reprendre dès janvier prochain. C'est ce que nous confiait hier un représentant des négociateurs tchadiens. Un accord est d'autant plus vital que le FMI ne signera plus de chèque au Tchad tant que les deux partenaires ne sortiront pas de leur discussion oiseuse et n'auront pas trouvé une façon de régler ce différend.
Oui, c'est oiseux, n'est-ce pas, Olivier Roger? Mais c'est surtout que ce n'est pas la première fois que les autorités tchadiennes sont aux prises avec des sociétés étrangères qui exploitent leur pétrole. Remontons un peu le temps, nous sommes en 2014. Au mois d'août, N'Djamena annonce déposer deux plaintes contre la compagnie chinoise CNPC qui refuse de lui verser l'amende d'1,2 milliard de dollars à laquelle elle a été condamnée pour dégradation de l'environnement. Deux mois plus tard, le 28 octobre 2014, le correspondant de RFI à N'Djamena, Majasra Nako, appelle la rédaction pour l'informer qu'un accord a été trouvé entre les deux parties. On écoute son compte-rendu.
L'équipe gouvernementale chargée du contentieux avec la compagnie chinoise s'est retrouvée au grand complet lundi pour annoncer à l'opinion les détails de l'accord conclu tard dans la soirée de vendredi dans un hôtel parisien. Ndjerasom Lebemadiel, ministre du pétrole.
Les pourparlers ont repris entre les deux parties et nous sommes arrivés à un accord dont les points clés sont les 400 millions de dollars de paiement en cash, 10% de participation dans tous les champs en production aujourd'hui, en plus de la redevance qui est contractuelle et un contrat de partage de production à la place de contrat de concession.
En échange, les deux parties ont décidé de renoncer à la procédure d'arbitrage devant le tribunal de Paris. Sur les territoires tchadiens, la ministre de l'Environnement a aussi annoncé qu'elle retire sa plainte contre l'entreprise chinoise qui s'engage à son tour à réparer les dégâts causés à l'environnement. La CNPC qui devrait retrouver les 5 blocs de permis d'exploration qui lui ont été retirés fin juillet sera aussi rapidement autorisée à exporter le brut produit dans ces champs, devenant la troisième compagnie après Exxon et Glencore à vendre à l'international du pétrole tchadien.
Est-ce que le Tchad est imprudent dans sa gestion des relations pétrolières avec ses partenaires, Luc Désiré Ngba?
Le Tchad fait tout simplement face à un déficit que font face la plupart des pays africains, à savoir le capital humain. C'est tout.
C'est tout.
C'est tout.
Il n'est pas armé pour négocier avec les gens.
Il n'est pas tout simplement ça. Cela voudrait tout simplement dire qu'il faille en fait former des gens, doter ces personnes des capacités pour pouvoir négocier au nom de l'État.
On en est loin ?
On en est loin. On en est loin parce que tout simplement, ces pays viennent de très loin et il faille construire cette infrastructure-là. Le capital humain ne se construit pas en un jour. C'est une accumulation de connaissances qui est transmise dans le pays. Et dans ce cadre-là, à défaut, il faille d'abord parfois être dans un trade-off en arbitrage entre attendre, exploiter votre pétrole maintenant parce que votre population souffre en termes de déficit en infrastructure, dans les questions sociales et autres, et le fait que vous ne soyez pas assez outillé pour pouvoir négocier.
Eh bien, nous continuons cette conversation dans Écho d'ici, Écho d'ailleurs dans quelques minutes. Nous continuerons à parler de la manière dont les États africains gèrent leur pétrole. Nous nous retrouvons après un flash d'actualité. À tout de suite.
Écho d'ici, Écho d'ailleurs sur RFI. Écho d'ici, Écho d'ailleurs. Jean-Pierre Boris, Guillaume Munier.
Bienvenue à celles et ceux qui nous rejoignent pour cette deuxième partie d'Écho d'ici, Écho d'ailleurs. Nous parlons du pétrole africain, de la manière dont il se produit, dont il se vend, dont il s'exporte. Un invité à ce micro, Luc Désiré Ongba, maître de conférence à l'université Paris 10 Nanterre. Souvent, les institutions qui voudraient contrôler ce qui se passe en matière pétrolière en Afrique, que ce soit les bailleurs de fonds, les ONG ou parfois même les organismes intérieurs de contrôle, font face à une opacité totale dans les contrats qui ont été signés. Écoutez ce que disait en 2013 la coordinatrice de Revenue Watch Institute pour l'Afrique francophone, Evelyne Siguet, sur la situation au Cameroun. Elle s'exprimait au téléphone au micro de Gaël Lalex.
Il y a de l'opacité dans le processus d'octroi des permis. Les contrats passés entre l'État et les compagnies pétrolières ne sont pas divulgués. Il y a une défaillance au niveau du système de collecte des revenus. On a également très peu d'informations sur la gestion de la Société nationale des hydrocarbures qui collecte l'essentiel des revenus pétroliers de l'État. Les noms des membres du conseil, par exemple, ne sont pas disponibles sur le site internet de l'entreprise. On note aussi un manque général de mécanismes de supervision. Les agents publics ne sont pas tenus de divulguer leurs intérêts financiers dans les projets extractifs. Il est possible que les recettes pétrolières aient contribué à la réalisation d'un certain nombre d'infrastructures, mais étant donné qu'on n'a pas l'information, il est difficile d'évaluer la contribution ou de manière générale les retombées du pétrole depuis plusieurs décennies.
Beaucoup de choses dans ce bref extrait sonore, Luc Désiré Ongba. Est-ce qu'il résume toute la problématique pétrolière en Afrique d'une certaine manière ?
Pas nécessairement, tout simplement parce que déjà il y a une question qui est fondamentale, c'est d'avoir la prise de conscience des citoyens de ces pays que le pétrole est une ressource qui leur appartient. Et ça, ce n'est pas souvent facile. C'est-à-dire qu'en gros, comme c'est une ressource externe, en moyenne, les pays, les citoyens de ces pays sentent les soubresauts des cours mondiaux, mais ne s'approprient pas déjà cette richesse. Donc ça, c'est le premier point. Et maintenant, le deuxième point par rapport à la question de gouvernance, la question qui se pose tout simplement pour le cas de l'Afrique, c'est qu'il y ait un manque de contre-pouvoir. Ce n'est pas juste le cas tout simplement des pays pétroliers, mais la gouvernance telle qu'elle est définie en Afrique, c'est comme si on ne recherche pas les sources de la variabilité de cette gouvernance. C'est-à-dire qu'en gros, on dit par exemple que les gens sont corrompus, mais quand vous dites que des gens sont corrompus, vous avez deux manières de réfléchir. Soit vous dites que c'est inné, et donc dans ce cas-là, de toute façon, vous ne faites rien.
Mais ça, c'est du racisme.
Voilà, justement. Ou alors, vous dites qu'il y a des conditions qui rendent ces personnes corrompues, ou qui amènent ces comportements de corruption. Donc, vous voyez très bien que si vous partez donc dans ce cadre-là, il faut donc vous poser la question, quelles sont ces conditions? Et c'est dans ce cadre-là que, personnellement, moi, je me situerais. Et malheureusement, ces recherches-là, ou cette essai de compréhension pour le cas africain n'est pas souvent fait. Et donc, du coup, on se retrouve donc avec quoi ? On se retrouve donc avec des gouvernants qui ont le pouvoir politique, qui gèrent les rentes publiques parce qu'il n'y a pas de secteur privé. On est bien d'accord qu'en moyenne, les hommes d'affaires dans la plupart des pays africains sont en gros des revendeurs. Donc, ils achètent, ils importent et ils revendent les produits d'importation sur place. Donc, il n'y a pas de création en termes de valeur ajoutée réelle dans ces pays-là. Et donc, du coup, les gouvernants ont le pouvoir politique et ont le pouvoir économique. Et la question qui vient, c'est de poser juste à vous demander à des personnes qui ont le pouvoir économique et politique de changer. C'est pas possible. Il n'y a aucun intérêt.
Donc, c'est le contrôle démocratique que vous réclamez ?
Non. Pas tout simplement le contrôle démocratique. Parce que justement, aussi là, il y a une erreur par rapport au continent africain. C'est-à-dire que, telle que la démocratie est partie en Afrique, et ça, on oublie souvent de le souligner, l'Afrique, dans la plupart des États, vous avez 60 années en termes après les indépendances. Et il faut savoir et intégrer que ça fait plus de 30 ans, près de 30 ans que l'Afrique joue, vit dans le système dit démocratique. Le problème, c'est que cette démocratie n'est pas endogène. Et donc, comme elle n'est pas endogène, elle n'aboutit pas à des institutions qui sont fortes et qui peuvent donc contraindre les pouvoirs publics, qui peuvent contraindre ceux donc, qui jouissent de la décision publique à agir dans le sens de l'intérêt général. En gros, ce qu'on demande aux gens, aux gouvernants, on leur demande quelque chose qui est totalement antinomique avec l'hypothèse de base du comportement humain qui se veut tout simplement d'un comportement opportuniste.
Mais donc, alors, vous, tout à l'heure, pour revenir au contrat, vous disiez qu'il y avait encore des contrats pétroliers qui remontaient à l'époque coloniale. Où ça? Lesquels?
Non, déjà, et ça, là alors, c'est aussi un autre point que le témoignage
de Madame Siguet
venait de souligner, c'est que les pays, ces pays-là ne comprennent pas que, en ne relâchant pas les contrats, ils se rendent vulnérables. Parce que tout simplement, comme ils sont dans un rapport de force avec les multinationales, pour permettre aux multinationales, par exemple, ou aux intérêts étrangers de pouvoir agir dans le bénéfice de leur population, plus de transparence amènerait, serait quelque chose de valorisant, de contraignant pour ces multinationales afin d'agir dans le bon sens.
Vous voulez dire que s'il y avait plus de transparence, une pression populaire pourrait
exactement,
s'exercer sur le gouvernement qui serait renforcé dans ces négociations.
Dans ces négociations, et notamment aussi sur les multinationales, parce qu'une multinationale ne va plus se permettre, ne pourrait peut-être pas se permettre d'avoir tout simplement des systèmes d'entente avec tout simplement les pouvoirs publics. Et donc, dans ce cadre-là, il y aurait, on ne va plus peut-être donner un contrat, peut-être comme on l'avait fait pour le cas du Tchad, notamment, on donne 10% ailleurs, ainsi de suite. On serait amené à proposer quelque chose qui va dans un modèle gagnant-gagnant. Et donc, ironiquement, ces gouvernants et ceux qui prennent la décision dans ces pays-là ne savent pas que, en étant transparent, ça, c'est une sorte de protection pour eux.
Mais vous ne répondez pas à la question sur les contrats qui remontent à l'époque coloniale. Où est-ce qu'il y en a?
Tout simplement, vous avez les pays qui ont commencé à exploiter du pétrole avant les indépendances. Et il y en a plein.
Mais lesquels?
Par exemple, le Gabon a commencé à exploiter le pétrole avant son indépendance.
Mais les contrats qu'ils ont sont renouvelés régulièrement. On l'a entendu tout à l'heure.
Là, nous situons maintenant dans tous les rapports politiques qu'il peut y avoir entre différents négociateurs. Mais le socle base, il est là. Parce qu'à partir du moment, et ça c'est très bien prouvé, c'est-à-dire si vous prenez, par exemple, un certain nombre de travaux, au niveau des pays qui sont, par exemple, plus diversifiés en termes de diversification économique et qui produisent le pétrole, ce sont les pays qui ont commencé à produire le pétrole bien longtemps après les indépendances, qui apparaissent les plus diversifiés. Et donc ceux, tout simplement, qui ont commencé à produire avant leur indépendance, ont été contraints, et le système générant un système de rente, les gouvernants étaient beaucoup moins incités à entrer dans des processus de production.
Prenons un exemple. L'un des grands pays producteurs d'hydrocarbures en Afrique du Nord, c'est l'Algérie. Du gaz, beaucoup de gaz, mais aussi du pétrole. L'argent des recettes de l'exploitation est consigné dans un fonds de régulation des recettes qui contenait 7 milliards de dollars à la fin de l'année 2016. Mais les prix ont chuté malgré les efforts d'Alger pour imposer, parfois par voie diplomatique, des prix à la hausse. C'est un reportage Éco-d'ici-Éco d'ailleurs, signé Leïla Berato à Alger.
Les hydrocarbures, ce sont 60% du budget de l'État. Pour les ventes internationales de pétrole, Alger se base sur le prix de référence du baril de Brent de la mer du Nord. Mabrouk Haïb, expert pétrolier et membre du think tank économique NABNI.
En fonction du type de brut qu'on a, on a un brut qui est de bonne qualité, qui est plutôt léger, mais parfois le marché peut demander un brut qui est plus lourd, par exemple, parce que les raffineries composent différents types de brut pour optimiser leur production. Le brut est vendu en spot, donc il n'y a pas de contrat à long terme, par exemple. On peut avoir des contrats à court terme.
Pour l'étranger, les clients d'Alger sont principalement des raffineurs, mais une partie de la production est aussi vendue en interne.
Les prix sont administrés. Donc, c'est pas son attrait qui les fixe, c'est l'État, à travers ses agences, qui fixe les prix. Donc, à l'entrée de la raffinerie, à la sortie de la raffinerie, et puis jusqu'au dernier segment de la distribution de détail.
Pour négocier ces prix de vente, Alger fait aussi un travail diplomatique au sein de l'OPEP pour faire remonter les prix du baril. Car l'argent du pétrole est stratégique, d'abord pour financer le coût de certains produits alimentaires et énergétiques. En 2016, ses transferts sociaux représentaient 15 milliards de dollars, mais aussi pour développer les infrastructures du pays. Alexis Reynaud est responsable du cabinet Oxford Business Group à Alger.
La grande majorité des investissements dans tout ce qui est transport, construction, habitat, ça dépend en fait des deniers publics. Donc forcément, quand ces deniers commencent à se réduire, y a certains projets qui en pâtissent.
À cause de la crise, des chantiers de stades sont désormais à l'arrêt. Mais Alger maintient sa politique de construction de logements.
Lorsque le ministre de l'Habitat de l'époque, qui est devenu en fait Premier ministre par la suite, Monsieur Tebboune, avait en fait tiré un peu la sonnette d'alarme en disant il y a beaucoup de financements qui sont gelés pour l'accès au logement et du coup on va prendre du retard dans la mise en application des programmes de logement. Et les ressources ont été débloquées presque instantanément. Donc ça montre que c'est un secteur prioritaire pour l'État.
La loi de finances 2018 prévoit pour la première fois depuis 3 ans de relancer l'investissement dans les infrastructures, principalement dans les domaines de la santé et de l'éducation.
Un reportage signé Leïla Berato à Alger. Luc Désiré Angba, vous parliez de manque de compétences. L'Algérie, c'est un pays qui a des compétences pour négocier des contrats, qui donc est à rebours de ce que vous disiez tout à l'heure, n'est-ce pas ?
Bon, déjà, lorsqu'on parle en économie, et notamment lorsqu'on raisonne en termes d'économétrie, on raisonne en termes de moyenne. Dans la moyenne, il y a certains pays qui dévient de la moyenne. Mais de manière fondamentale, le mode de gestion de la rente en Algérie n'est pas différent de celui des autres pays africains, notamment à travers le fait qu'il y a une rente publique et qui choisit et que dont les représentants, les gouvernants choisissent un mode de redistribution et non de création de richesses. C'est pourquoi, par exemple, lorsqu'il y a des chutes de cours, l'Algérie en souffre terriblement. C'est-à-dire qu'en gros, on prend des ressources, on redistribue par des emplois publics, ça paye la paix sociale, ça. Et donc, il y a une certaine stabilité économique. Mais fondamentalement, le problème ne change pas. Parce que tout simplement, il y a déjà une question qui se pose, c'est que les ressources naturelles, par définition, sont appelées, notamment le pétrole, est une ressource épuisable. Donc, et également, l'Algérie, je pense, c'est 12 milliards de barils en termes de réserves, ne peut pas compétir dans la même catégorie, comme je le disais, par exemple, avec l'Arabie Saoudite, avec ses 266 milliards de barils. Et donc, dans ce cadre-là, un modèle basé sur la redistribution, tel qu'il est basé dans la plupart des pays africains, est un modèle totalement insoutenable.
Est-ce qu'il serait soutenable, ce modèle, si l'Algérie avait 266 000 milliards de barils de réserves comme l'Arabie Saoudite? Est-ce que ça change les données?
Ça change les données en termes d'horizon temporel et en termes de matelas de sécurité. C'est-à-dire que, en termes temporels, c'est-à-dire que tout simplement, si vous faites sans doute le rapport des réserves sur la production, le nombre d'années qui resterait à produire en termes de pétrole à l'Algérie serait beaucoup moins élevé que ce même nombre d'années pour l'Arabie Saoudite. Et maintenant, ça change aussi en termes d'importance de la rente. Et donc, forcément, l'Arabie Saoudite va faire beaucoup moins de dessus que l'Algérie. Parce que tout simplement, l'importance de la rente ou le Gabon. Et pour le Gabon encore, c'est encore beaucoup plus sérieux. Parce que tout simplement, le Gabon, il est à peu près, je pense, à 1 milliard, 1,5 ou 2 milliards de barils en termes de réserve. Et à peu près 273 000 barils par jour. Et donc forcément, ce sont des modèles insoutenables. Ces pays doivent comprendre très clairement que les ressources naturelles ne doivent être pas gérées pour la redistribution. Ils doivent comprendre, les pays africains, que les ressources naturelles doivent permettre d'enclencher le développement.
C'est Écho d'ici, Écho d'ailleurs sur RFI. Nous parlons Afrique et pétrole avec Luc Désiré Angba, maître de conférence à l'université Paris-Nanterre. Un exemple maintenant, l'Ouganda, qui s'est donné pour objectif de devenir producteur de pétrole. Un projet ambitieux avec la construction du plus long pipeline chauffé au monde, 1445 kilomètres, entre le lac Albert et le port de Tanga en Tanzanie. Un projet mené par le gouvernement en partenariat avec un ensemble de compagnies pétrolières étrangères. 1 milliard 200 millions de barils de pétrole de réserve et le début de l'exportation qui est prévu pour 2020. C'est un reportage Écho d'ici, Écho d'ailleurs, signé Charlotte Cosset, qui démarre à l'ambassade de France à Kampala.
À la résidence de l'ambassadrice, cette opération séduction de la part de la Chambre des mines et du pétrole ougandaise.
devant un parterre d'entrepreneurs français spécialisés dans les activités pétrolières et en visite en Ouganda, son président, Eli Karuanga, tente de convaincre.
You will not go back empty-handed.
Vous ne rentrerez pas les mains vides. C'est notre travail à la Chambre des mines et du pétrole. Tous mes collègues ici, s'il vous plaît, levez la main. Tous ces gens-là sont là pour vous servir. Les Ougandais cherchent des acteurs internationaux pour être leurs partenaires. Nous souhaitons que vous investissiez en Ouganda et que votre commerce soit viable. Nous pouvons vous dire que nous nous soucions d'attirer vos investissements dans notre pays. Donc, ce capital est important pour nous. Nous le voulons et nous voulons que 2020 soit un rêve réalisable.
L'Ouganda doit convaincre les entrepreneurs car l'État a besoin de partenaires spécialisés qui acceptent de travailler dans le pays. Chris Musiime est directeur de programme au centre de recherche Africa Center for Energy and Mineral Policy. Selon lui, l'équipe ougandaise ne manque pas de qualité technique pour négocier avec les compagnies, mais les divers agendas limitent les marges de manœuvre.
The political agenda is there. The financial agenda is there.
Le calendrier politique est là. Le calendrier financier est là. Le pays a vraiment besoin d'argent. L'économie n'est pas du tout performante. Donc la pression est grande sur le président Museveni. Tout le monde sait à quel point il a pu être têtu. Mais le temps désormais est compté. Il doit faire beaucoup de choses. Donc je pense qu'il a perdu un peu de son pouvoir à négocier et il va devoir suivre dans une certaine mesure ce que les entreprises lui dictent.
La prochaine présidentielle qui se tiendra en 2021 oblige le président Museveni à avoir des résultats. Mais la plus grosse pression est sans doute celle de l'argent. Le président ougandais mène actuellement une politique de grands travaux dans le pays, une politique coûteuse au-dessus des moyens du pays, ce qui est source d'inquiétude pour l'ambassadrice française à Kampala, Sophie Rivol.
Alors, il y a bien sûr quelques écueils à éviter. Il faut déjà, numéro un, que cet argent qui n'est même pas encore arrivé ne soit pas prédépensé. Et ça, c'est vraiment important parce que effectivement, on comprend les Ougandais qui veulent construire énormément d'infrastructures pour aller vite et se développer très vite. Et la tentation qui a été celle d'autres pays, c'est finalement de lever de l'argent sur la base de ses revenus futurs, d'hypothéquer le futur. Et ça, c'est un problème. J'espère que l'Ouganda ne tombera pas dans ce travers.
Des investisseurs hésitants, un calendrier politique qui s'impose sur celui de la production du pétrole, des contraintes économiques considérables, difficile pour l'Ouganda de mener ce projet aux conditions souhaitées.
Un reportage signé Charlotte Cosset à Kampala, Luc Désiré Ongba, c'est un peu l'incarnation de ce que vous expliquez. Il y a l'urgence qui pousse ce pays ougandais à signer des contrats qui peut-être ne sont pas à son avantage.
Déjà, pour le cas de l'Ouganda, ils ont été assez un tout petit peu stratégiques. C'est-à-dire que lors des découvertes, ils ont pris un certain nombre d'Ougandais envoyés à l'étranger se former dans ces aspects relatifs à la gestion des mines. Et aussi, je me souviens qu'ils avaient commandé tout un rapport à la Banque mondiale pour donner un peu des pistes de recherche, des pistes de solutions par rapport à la bonne gestion de ces ressources. Donc, il y avait un peu de l'idée, donc il y avait l'intention. Maintenant, après, le problème qui se pose, c'est très clair, comme vous l'avez très bien fait remarquer, c'est que lorsque, et c'est l'une des erreurs aussi de ces pays, notamment les pays africains, c'est de penser que les investissements en termes de travaux publics développent tout simplement une nation s'il n'y a pas de complémentarité avec d'autres facteurs. En gros, lorsqu'on parle de capacité d'absorption dans un pays, ce n'est pas un vain mot. Pour qu'une une infrastructure soit rentable, il faudrait qu'elle soit complémentaire avec d'autres facteurs, notamment par exemple facteurs qualifiés. Et le problème de l'Ouganda actuellement, c'est justement par rapport à cette pression-là, se lance dans les infrastructures et qui pourrait être source de très faible rentabilité et donc devenir en gros ce qu'on appelle des éléphants blancs.
Mais quand l'ambassadrice de France qu'on entend dans ce reportage dit la crainte, c'est que l'argent généré par ce pétrole soit dépensé avant que le pétrole ne sorte en fait du lac Albert, du sous-sol du lac Albert. Est-ce que c'est quelque chose qui naît dans les contrats, dans la manière dont ce pétrole est négocié?
Pas simplement dans les contrats, ça naît tout simplement que ces pays ont des contraintes en termes de financement. Ces pays ont des contraintes en termes de financement. Ils sont dans les marchés de crédit, ils ont tout simplement ce qu'on appelle une contrainte de crédit. Et donc, comme ils n'ont pas assez d'argent, tout simplement, ils deviennent vulnérables et l'une des façons de réguler cette vulnérabilité, c'est en gros de baser ce qu'on appelle un économie collatéral, de baser le collatéral en termes de réserves pétrolières pour pouvoir avoir des crédits. C'est ce que, dans une certaine mesure, le Tchad aussi avait eu à faire. Tout simplement, l'Ouganda fait partie encore, en termes de PIB par tête, ça fait encore partie des pays les moins développés en Afrique. Et donc, dans ce cas-là, il y a des contraintes de crédit. Et après, l'autre problème aussi pour l'Ouganda, c'est que c'est parce qu'ils ont traîné un tout petit peu par rapport à cet agenda de termes de formation. Par exemple, le Ghana a découvert le pétrole, je pense, pratiquement à la même période, 2007. Mais le Ghana, il l'exploite déjà. Et le Ghana, aujourd'hui, a 100 000, un peu plus de 100 000 barils aux alentours en termes de production journalière. Mais le problème du fait que ces pays, l'Ouganda, aient attendu un tout petit peu longtemps, a fait naître au niveau des citoyens une aspiration au bien-être. Et donc là aussi, ça renforce la contrainte au niveau du politique, parce que de toute façon, si le politique ne fait pas voir une certaine utilisation de ce pétrole, les citoyens vont toujours penser que ce pétrole est mal géré.
En tout cas, souvent, les fonds générés par les revenus pétroliers ne sont pas également partagés. C'est le cas en particulier, par exemple, au Nigeria. Écoutez ce reportage signé Moïse Gomis et diffusé sur les antennes de RFI le 10 octobre 2016.
Trouver un emploi devait être une formalité pour elle et pourtant, Fefa Forego est au chômage. Diplômée dans les métiers du pétrole et du gaz dans une université britannique, cela fait un an qu'elle est revenue vivre à Wari. Fef a ouvert une boutique et vend des chaussures.
Ces multinationales pétrolières n'arrêtent pas de dire que nous, les Ishékéri, nous sommes peu qualifiés. Alors elles viennent ici, elles amènent des gens des autres états du Nigeria, et ces personnes de l'Ouest et de l'Est viennent travailler sur nos territoires. Alors que pour nous, natifs de ces secteurs d'où est extrait le pétrole, il n'y a pas de travail. Je ne suis pas censée vendre des chaussures, j'ai deux diplômes, je suis ingénieur en gaz et j'ai étudié la géologie. Les gens qui travaillent à Chevron ici, si vous leur demandez de vous montrer des diplômes, ils n'ont rien à montrer. C'est vraiment agaçant. Vraiment, ça m'énerve.
La frustration est palpable au sein de la communauté Ishékéri. Difficile de mesurer la réalité de l'accès à l'emploi car peu de statistiques sont disponibles. De manière générale, que ce soit en milieu urbain ou bien dans les villages, le chômage des jeunes diplômés est vécu comme une insulte adressée à l'ensemble de la communauté.
Nous, on nous donne du travail que sur des courtes missions, mais ce n'est pas ce que l'on veut. Parmi nous, il y a des gens hautement qualifiés qui pourraient prétendre à des postes de cadre chez Chevron. Pourquoi n'emploient-ils pas des Ishékéri? On a vraiment l'impression que c'est du sabotage contre notre peuple, contre notre communauté, mais nous allons nous battre avec tout le pouvoir à notre disposition. Nous sommes des gens qui aimons la paix. Peut-être c'est à cause de cela que l'on nous mène en bateau sur ces questions d'emploi.
Pour Colin Sedema, le président de l'Association nationale des diplômés Ishékéri, le faible accès aux emplois trouve aussi son explication à l'intérieur de la communauté Ishékéri.
Quand une compagnie pétrolière vient dans une communauté, elle s'adresse au chef, à son adjoint et à son secrétaire. Elle négocie avec ces personnes avec de l'argent. Ces membres de la communauté vont prendre l'argent et oublier le fait de renforcer les capacités humaines. Certains leaders Ishékéri préfèrent une compensation monétaire pour eux au lieu de donner du travail aux membres de la communauté. Il faut que ça change. Cela n'arrive jamais dans une société qui fonctionne bien.
Invité à réagir sur sa politique de ressources humaines, Chevron a répondu via un email. La multinationale américaine indique que de nombreux Ishékéri sont membres des effectifs de Chevron Nigeria et de ses sous-traitants. L'entreprise pétrolière insistant sur des critères de recrutement sans discrimination et basée uniquement sur le mérite.
Du Désiré Ongba, est-ce que les contrats pétroliers entre l'État du Nigeria et Chevron ou d'autres prévoient le recours à la main-d'œuvre locale, la répartition des retombées du pétrole?
En fait, dès le départ, c'était pas souvent ça. Mais maintenant, de plus en plus, il y a ce qu'on appelle le local contain, un contenu local au niveau des contrats pétroliers où on essaye notamment de prendre en compte le fait qu'on va modifier l'environnement des natifs et donc définir des politiques adressées par rapport à cela. Maintenant, pour le cas du Nigeria, le problème qui se pose, c'est ce qu'on appelle l'effet de voracité. C'est-à-dire, en gros, vous avez une société multiethnique qui est en fait aussi une république fédérale. Lorsqu'il y a un boom en termes de ressources naturelles, notamment en termes de pétrole, chaque communauté demande la redistribution de cette rente. Et donc, forcément, on va donc abaisser, en fractionnant donc la manne, on va abaisser les critères, notamment en termes d'appel d'offres de marché public. Et donc, qu'est-ce qu'on aura dans ce cas-là? On aura tout simplement de la corruption et du détournement. Donc ça, c'est véritablement l'un des exemples de ce qu'on appelle l'effet de voracité des élites lorsqu'il y a un boom de ressources, notamment dans une société fractionnaire et fédérale. Et je pense que l'une des solutions dans ce cadre-là, ce serait d'envisager des fonds en termes de fonds souverains pour au moins essayer de casser la dynamique en termes de demande de redistribution des différentes communautés pour que finalement on arrive à avoir des investissements qui vont pour le bien de tous.
Merci Luc Désiré Ongba, cette émission est maintenant terminée. La semaine prochaine c'est un peu relâche, nous rediffusons une émission consacrée à l'économie allemande et nous nous retrouvons pour de vrai entre guillemets dans les premiers jours de la nouvelle année, l'année 2018. Au revoir, bonne fin d'année.
Écho d'ici, écho d'ailleurs, sur RFI.